La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Dès le Moyen-Âge, on voit apparaître des considérations à l'égard du corps et à la façon de le maintenir. Et selon les époques, l'ajustement de l'architecture des corps fait l'objet de préoccupations très variables. Et dans les années 70, en pleine période de libération face aux contraintes, l'historien du corps, Georges Vigarello, s'intéresse aux évolutions de la rectitude. Et il publie à cette époque « Le corps redressé, histoire d'un pouvoir pédagogique », livre dans lequel il montre que la représentation du corps varie avec le temps et les milieux. Il est notre invité dans un instant, Georges Vigarello, avec ce texte qui est réédité. Il vient nous en parler dans un instant pour nous raconter les agencements de la posture. Il va répondre à tous vos messages, vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
La semaine reprend et à la une de la science aujourd'hui, une publication majeure sur l'état des sols de la planète.
Oui, un rapport international qui juge critique la dégradation mondiale des sols. Comme pour le climat, il nous faudrait agir vite, en urgence, voire encore plus vite. On en discute avec Dominique Arouez de l'INRA.
Et c'est Fanny Boyon qui réalise cette tête au carré, préparée aujourd'hui par Thomas Lehété avec Anna Massardier.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Je redresse ma colonne vertébrale pour vous saluer, Georges Vigarello. Bonjour.
Bonjour.
Cette histoire du corps redressé aurait pu commencer avec la bipédie quand même chez Homo sapiens. Et pourtant, vous démarrez votre récit au Moyen-Âge.
Alors, votre question est importante. Elle aurait pu évidemment commencer avec la bipédie. Elle aurait pu tout simplement traduire l'histoire de l'homme. Il y a des images étonnantes à ce sujet. Je pense par exemple à des anthropologies du 19e siècle qui montrent comment la silhouette, si on peut utiliser ce mot, s'est progressivement redressée à partir de l'homme qui descend de l'arbre, qui ensuite peut marcher, se redresse, commence à utiliser autrement ses outils et ses mains, progresse au niveau également de son volume crânien. On pouvait effectivement faire cela. Alors pourquoi je l'ai pas fait? D'abord parce que je ne suis pas anthropologue, et ensuite parce que je trouve que les histoires qui vont trop loin sont immaîtrisables. Mais déjà, vous savez, commencer au Moyen-Âge, c'est un peu compliqué. Ouais. Voilà. Alors pourquoi le Moyen-Âge? Parce que en fait, ça renvoie à une histoire plus homogène de l'Occident. Et parce que commence à exister au Moyen-Âge des textes que je trouve personnellement très intéressants. Je pense par exemple à l'éducation des pages, vous voyez, dans les cours, ou à l'éducation des jeunes filles pour la danse. Donc il y a, au fond, une documentation qui commence à être riche et qui est particulièrement pertinente.
Eh bien, on va faire le tour justement de la question à partir du Moyen-Âge et jusqu'à aujourd'hui pour voir justement comment la rectitude s'est inscrite dans les représentations corporelles. Et les auditeurs nous rejoignent avec les messages.
La science de l'environnement, en partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
L'état des sols à la une de la science aujourd'hui, puisqu'en ce moment même à Medellín en Colombie, 750 experts du monde entier sont réunis pour parler de l'avenir de la biodiversité à l'occasion du forum international de l'IPBES, l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Et ce rapport international qui va être remis à l'occasion de ce forum et qui juge critique l'état des sols à l'échelle de la planète, érosion, déforestation, pollution, l'homme est en train de consommer trop vite cette ressource qui a pourtant évidemment et qui continue de nourrir l'humanité. Axel, on en parle avec nos invités.
Oui Mathieu, nous sommes avec Hervé Kempf pour Reporter, comme tous les lundis. Bonjour Hervé.
Bonjour Axel.
Et avec Dominique Arouez par téléphone, bonjour.
Bonjour Axel et Hervé.
Vous êtes ingénieur de recherche à l'INRA d'Orléans dans l'unité InfoSol. Alors en 3 ans, c'est le 2e rapport international concernant les sols avec celui de la FAO en 2015. Et les deux sont très inquiétants. Alors quelles sont vraiment les menaces qui pèsent sur les sols à l'échelle du globe?
Alors à l'échelle du globe, les principales menaces qui pèsent sur les sols sont d'une part l'érosion, qui affecte une énorme partie du territoire. La deuxième menace, je dirais que c'est l'artificialisation, la bétonisation en fait, hein, l'imperméabilisation des sols. Et puis après, il y en a beaucoup d'autres. Il y a le déséquilibre en éléments nutritifs qui touche principalement l'Afrique subsaharienne. Il y a la baisse en teneur en matière organique. Il y a la salinisation qui touche principalement les pays arides et méditerranéens. Et une baisse éventuelle de la biodiversité. Puis enfin, pour les pays du Nord, il y a aussi le problème de l'acidification. Donc il y a je dirais, énormément de menaces finalement sur ce patrimoine que sont les sols mondiaux.
Hervé Kempfin.
En même temps, on a l'impression que cette notion de dégradation des sols est un petit peu fourre-tout. Est-ce qu'il y aurait une sorte d'indicateur qui permettrait de mesurer de manière synthétique cette évolution dans un sens négatif ?
Bah, un premier indicateur, c'est la perte en sol qu'on peut calculer par modélisation principalement.
Ou c'est bien quoi, ça veut dire quoi la perte en sol exactement ?
Bah, la perte en sol par érosion. C'est-à-dire, par exemple, on estime qu'actuellement ce sont environ 24 milliards de tonnes de sol qui disparaissent chaque année sous l'effet de l'érosion, c'est-à-dire qui partent dans nos deltas, dans nos rivières, dans les océans.
24 milliards, ça paraît un chiffre énorme. C'est
ça
rapporté
fait 3,5
à quel
par habitant, ouais.
C'est rapporté à quelle quantité ou volume de sol total?
Là, il faudrait que je fasse le calcul de tête, ça va pas être facile.
Non, on va pas faire le calcul de tête en direct.
Il y a 13 milliards d'hectares, si vous mettez un hectare à 3000 tonnes, voilà. Disons que vous perdez finalement, j'essaye de faire le calcul de tête.
Non, mais abandonnez.
Une quantité colossale.
Vous en perdez beaucoup, vous en perdez 3,4 par... par habitant.
On peut parler d'êtres humains parce que le rapport de l'IPBES remis à Medellin aujourd'hui parle de 3 à 4 milliards d'êtres humains dont le bien-être est mis en jeu par la dégradation de ces sols. C'est quoi les risques ?
Ben, le premier risque, c'est l'insécurité alimentaire. Hein, le premier risque, c'est que les sols soient tellement dégradés qu'on n'arrive plus à produire suffisamment de nourriture. Donc, c'est le cas en particulier de l'Afrique subsaharienne. Donc ça, pour moi, c'est ça le premier risque.
Dominique Arouez, pour parler de l'érosion justement, le phénomène il augmente pour quelle raison exactement ? Il est lié à la déforestation uniquement ?
Alors il peut être lié à la déforestation bien entendu, il est lié aussi à certaines mauvaises pratiques agricoles, le fait de laisser le sol nu par exemple, de ne pas le couvrir en permanence. Il peut aussi être lié à une augmentation des événements climatiques extrêmes, en particulier les orages ou les pluies très intenses qui sont liées au changement climatique.
Malheureusement, on peut faire des liens entre les différentes catastrophes du moment, celle de la sixième extinction, celle du réchauffement climatique, celle de la dégradation des sols. On imagine bien que tout ça est très lié.
Bah, tout ça est extrêmement lié. Je dirais même que quelque part, c'est les sols qui sont au centre de tout ça. La sécurité des sols, en fait, est en lien avec la sécurité alimentaire et est en lien avec également la qualité de nos eaux et la quantité de nos eaux, avec le changement climatique, avec la protection de la biodiversité, c'est le sujet du rapport qui sort aujourd'hui, et puis également avec les énergies renouvelables et puis tout un tas d'autres services écosystémiques. Finalement, on a un peu oublié que le sol était au centre de tous ces grands enjeux mondiaux.
Hervé Kempf.
En fait, ça menace, vous l'avez dit, particulièrement la sécurité alimentaire. Est-ce que le mouvement de progression de la production agricole mondiale et de productivité agricole vous paraît devoir s'interrompre, voire régresser ?
Je ne comprends pas vraiment la question.
Compte tenu du fait qu'il y a cette dégradation du sol que vous décrivez très bien, est-ce que le mouvement d'augmentation de la productivité agricole et de la production agricole mondiale va pouvoir continuer ou est-ce que ça va s'interrompre ?
Ce qu'on sait, c'est qu'il est plutôt en train de stagner. Et que les bonnes solutions, elles vont passer soit par de la sélection de plantes qui seront, je dirais, plus frugales, qui produiront avec moins d'intrants, soit par une meilleure gestion des sols. Et à mon avis, les deux.
Quand on parle de l'urgence climatique, on a une espèce d'ultimatum. On dit il ne faut pas dépasser 2 degrés en 2100. Est-ce qu'il existe une forme d'ultimatum pour la dégradation des sols ?
Ben moi, je mettrais un premier ultimatum qui serait d'arrêter l'extension de l'artificialisation et de l'imperméabilisation.
Ça veut dire quoi ? Ne plus construire.
On va dans le mur. Si on continue à construire sur les terres agricoles, et c'est ce qu'on fait, la plupart des urbanisations et des extensions urbaines se font sur des terres agricoles, on perd un potentiel, on perd un patrimoine énorme. Donc, à mon avis, la première alerte, c'est de gérer ça, c'est-à-dire d'essayer qu'il y ait du zéro net artificialisation, ou du moins de la contrôler.
Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de dire quelle proportion des sols de la planète est épargnée par l'impact humain ?
Épargnée ?
Oui, épargnée.
Ça dépend ce que vous appelez épargnée par l'impact humain. Parce qu'en fait, l'impact humain, il est présent partout, puisque, par exemple, le changement climatique est présent partout. Je dirais que les zones les moins touchées directement par l'activité humaine, on peut considérer que ce sont les forêts, hein, les zones dites naturelles. Donc ça représente 4 milliards d'hectares sur 13 milliards.
Le rapport parle de 10% en 2050 qui serait encore épargné. Hervé Kempf.
Il y a cette évolution très négative. Il y a en même temps, à la mesure que vous dites arrêter l'artificialisation, est-ce qu'il y a aussi des moyens de réparer les sols, de les guérir, de faire des restaurations de sols?
La résilience du sol, hein, c'est un terme qui est employé.
Oui, il y a moyen de faire ça. Disons que les sols sont pas morts, quoi. La plupart du temps. Bon, quand ils sont sous le béton, c'est quand même très très difficile et extrêmement coûteux de les réhabiliter. Mais par contre, un sol qui est en train de s'éroder ou qui a perdu sa matière organique ou qui s'acidifie, il y a moyen de le gérer. Je veux dire, on sait le faire. C'est un problème simplement de moyens. C'est un problème de mettre en place une gestion qui soit viable économiquement. Je vais vous prendre l'exemple, par exemple, des sols d'Afrique subsaharienne. Il y a un problème général qui est qu'ils sont de toute façon en train de s'appauvrir parce que l'agriculteur, le petit agriculteur africain moyen n'a pas les moyens de ramener finalement les nutriments qu'il exporte avec ses récoltes. Donc on est dans une espèce de spirale de la pauvreté, c'est-à-dire que le sol s'appauvrit en permanence. Si on arrive à gérer ça, je veux dire, si on arrive à avoir une couverture végétale permanente, si on arrive à apporter le peu d'éléments qu'il faut pour que la production soit suffisante, on va progressivement, je dirais, réhabiliter le sol. Oui, on sait faire ça.
En tout cas, il y a urgence, hein, visiblement, autour des sols de la planète. Et c'est ce que dit ce rapport international qui vient d'être remis donc aujourd'hui ou en ce moment même à Medellin, en Colombie, et qui est largement, abondamment commenté et qu'il sera dès demain également sur reporter.net, Hervé.
Absolument.
Et
la une d'aujourd'hui, ouais. Eh bien, quelque part, ça fait écho à ce que l'on vient de dire. On publie la vidéo d'un spectacle titré « Écologie, maintenant il faut se battre ». C'est des lectures très fortes par des comédiens et des comédiennes de textes de Paul Watson, de Vandana Shiva, d'Eric Johnson. Un sujet plus quotidien aussi, comment choisir sa voiture écolo quand vraiment on ne peut pas s'en passer. Et ouais. Ça arrive, hélas.
Ah bon, et on peut en trouver surtout.
Oui, en fait, la ruse, c'est quand même de faire du vélo et puis de chercher du covoiturage, des voitures de location et du prêt entre amis. Et puis, important aussi, la tribune d'un collectif d'avocats à propos des projets d'expulsion de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Ce collectif d'avocats rappelle au gouvernement et au Premier ministre que quand on veut expulser les gens, il faut respecter des procédures juridiques.
Voilà, tout ça sur reporter.net. Dominique Arouez, merci beaucoup pour votre intervention. Et puis Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le volcan Etna qui glisse chaque année. Il parcourt 14 mm en allant vers la mer, soit 1,40 m par siècle à échelle humaine. Ce déplacement est notamment dû à un sol composé de sédiments mous. Une équipe de géologues de l'Open University étudie depuis plus de 50 ans maintenant le volcan. Après avoir positionné des GPS sensibles au millimètre près au mouvement de la montagne, eh bien les résultats montrent donc que l'Etna se déplace vers l'est-sud-est et prend le chemin de la ville de Djare. Si la situation n'a pour l'instant rien d'alarmant, le professeur Murray note que d'ici 10 ans, la vitesse de déplacement aura doublé, ce qui rendra un peu plus préoccupant ce phénomène. De minuscules capteurs à coller sur les dents pour mieux comprendre le lien entre notre alimentation et notre santé. Des carrés adhésifs plats de 2 mm de large ont été imaginés par des ingénieurs de l'université de Tufts aux États-Unis. Reliés à un appareil mobile, ils transmettent en temps réel des informations sur la consommation de glucose, de sel et d'alcool. Les couches successives de ces capteurs réagissent également aux différents nutriments en changeant de couleur. À terme, ils pourraient détecter d'autres produits chimiques. Et puis une enquête sur la mort d'un dinosaure il y a 200 millions d'années qui trouve son dénouement. C'est le fossile d'un Lufengosaurus yenyei découvert en 1997 en Chine qui a permis d'ouvrir l'affaire. Une anomalie osseuse avait été détectée sur cet herbivore de 6 mètres de long et qui pesait un peu moins de 2 tonnes. Et bien aujourd'hui, après de longs mois d'enquête, des chercheurs de l'Université des géosciences de Chine ont fini par comprendre que cette déformation était due à une infection bactérienne survenue à la suite d'une méchante morsure. Un meurtre résolu, également la preuve d'une interaction entre les grands dinosaures mangeurs de plantes et leurs prédateurs agressifs. Et le corps redressé, c'est le dossier dans un instant.
Exister, ça tombe dessus comme un grain un soir d'automne. Exister n'est pas un dû, on arrive comme un intrus. La veille, il n'y avait personne. Exister n'est pas un dû, ça demande un camion grue. tellement parfois ça pèse des tonnes. Exister, quel sport de rue, sur cette pas du badminton. Exister, on est prévenu, fabrique des champions déchus, des jeunes qui ramassent leur couronne. Exister, on est prévenu, un beau jour on n'en peut plus, mais malgré tout on s'y cramponne. Exister, si j'avais su, aurais-je décliné la donne? Exister, c'est incongru. Est-ce l'œuvre du hasard nu ou celle d'un dieu qui tâtonne? Exister, c'est incongru. Problème à mille inconnus, deux oxygènes et un carbone. Exister, c'est déjà vu. Y en a qui se désabonnent. Exister comme on a pu, sans le moindre tumulte, sans vague ni coup de klaxon. Exister comme on a pu, puis partir comme on est venu, comme un grain, une nuit d'automne. Exister comme on a pu, sans le moindre tumulte, sans vague ni coup de klaxon. Exister comme on a pu, puis partir comme on est venu, comme un grain une nuit d'automne.
Exister, c'est le nouveau titre d'Alain Chamfort.
La tête au carré sur France Inter.
Donc elle se cherche un mec.
Exact.
Eh ben elle sait pas s'y prendre.
Je vous écoute.
Vous êtes plutôt grande. Faudrait un peu mettre tout ça en valeur. Tournez-vous pour voir. Tenez-vous droite. Ça compte plus que n'importe quelle robe. Mais votre port de tête, alors là non, quelle catastrophe. La démarche. La démarche, ma jolie, tout le monde la néglige. C'est important, la démarche. Alors, marchez un peu, montrez-moi ça.
Voilà, la démarche est importante, Georges Vigarello. La rectitude, hein, on pourrait dire plutôt. C'est,
oui, absolument. La rectitude, c'était la forme dominante de l'objet sur lequel je travaillais.
Oui. Vous parlez peu de séduction, finalement, d'ailleurs, dans cet ouvrage.
Non, parce que au début, ce qui me paraissait fondamental, c'était le fait d'exercer un pouvoir sur le corps pour le moduler, l'organiser, etc. C'était vraiment l'idée du pouvoir qui était au cœur de ma préoccupation. Puis, progressivement, quand j'ai réfléchi à cet objet, au fond, cette idée s'est un peu espacée, et il y avait deux autres idées dans le livre qui, par contre, me paraissent pouvoir continuer d'exister aujourd'hui et demeurer importantes.
Et quelles sont ces deux autres idées, Georges Vigarello?
Oui, c'est très important. La deuxième idée, au-delà du pouvoir, c'était non pas de partir d'un repère traditionnel qui était celui de l'âme et du corps. Vous voyez, bon, le corps négligé, l'âme importante, le corps secondaire, etc. Et au contraire, c'était de s'intéresser, non pas le corps en tant que valeur, mais le corps en tant que représentation. Comment on se représente le corps? À ce moment-là, se déplacer complètement, quelque chose qui, dans notre esprit, est traditionnel, à savoir le mépris du corps, se déplacer complètement dans la mesure où, par exemple, dans le monde du Moyen-Âge ou dans le monde classique, se représenter son corps, c'est le mettre en avant et le mettre en valeur. Donc vous voyez, ça déplace complètement. Et c'est absolument fondamental, la question de se représenter le corps. Parce que, pour continuer dans le projet que j'avais, parce que cette représentation, comme vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, elle change avec le temps. Donc à ce moment-là, l'histoire devient intéressante, vous voyez. Ouais. L'histoire fait émerger des choses.
Ce qui est incroyable quand même, parce que c'est un très bon exemple, moi je trouve, de la façon dont justement le social et le culturel s'impriment directement dans la chair. C'est-à-dire que nos corps traduisent tout ça.
Absolument. Hein. Et s'intéresser à la représentation dans les années 70, c'était une nouvelle manière de s'interroger sur le corps.
Alors, il faut...
On sortait de ces questions âme et corps, mépris pour le corps, etc. On sortait de ça. Et au contraire, ce qui devenait premier vraiment majeur, c'était « mais qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on se le représente ? Comment on le met en avant ?» Et à ce moment-là, on voit qu'il est toujours mis en avant. Comment pouvez-vous imaginer un courtisan qui ne s'intéresse pas à son corps et qui n'essaie pas de lui donner la meilleure figure emblématique possible ? Bien sûr que c'est impossible d'imaginer autrement.
Alors, il faut d'abord préciser aux auditeurs que vous republiez finalement cet ouvrage, oui. 40 ans plus tard précisément.
40 ans ne me rajeunit pas, mais disons, c'est effectivement... Oui.
Le corps redressé, histoire d'un pouvoir pédagogique, c'est aux éditions Le Félin dans la collection Histoire et Société. Vous qui êtes historien du corps, agrégé de philosophie et ancien professeur d'éducation physique, alors quel est l'intérêt justement de le ressortir 40 ans plus tard ? Vous l'expliquez à la fin d'ailleurs, oui. Dans la conclusion, c'est-à-dire que ça fait partie aussi du travail d'historien que de le réinscrire dans un moment présent.
Oui, je l'explique à la fin, je l'explique aussi au début où j'ai fait une nouvelle préface pour essayer de justifier la réédition. Mais je crois que ça porte sur les deux raisons que je venais d'évoquer. Je les redonne. La première, c'est de considérer que la représentation du corps est au cœur de la façon dont on le met en avant. Cette représentation du corps change, et ça a orienté, vous savez, des livres qui ont suivi. Hein. Par exemple, moi, quand j'ai travaillé sur la beauté, je me suis posé la question de comment la beauté était-elle représentée en fonction de périodes différentes. Quand je travaillais sur l'obésité, même question, etc. Et la deuxième idée qui était, au fond, importante à mes yeux, c'était de montrer que, dans les périodes récentes, il y a quelque chose qui commence à dominer fortement la préoccupation à l'égard du corps, et qui porte sur le fait de le ressentir. Oui. Non plus simplement se le représenter, mais comment l'éprouver. Et finalement, l'injonction de la rectitude passe aujourd'hui par l'idée éprouvez-vous. Essayez de ressentir la façon dont sont disposés les membres les uns par rapport aux autres. Et ça, c'est extrêmement neuf. Pourquoi c'est neuf ? Parce que ça renvoie à l'intérêt que l'on porte au sujet lui-même. Voyez, ne soyez pas dépendant des ordres que l'on vous donne, mais au contraire, essayez d'éprouver ce qui vient de vous. Ouais. C'est une idée majeure. Ouais.
Ça, c'est le discours d'ailleurs de la méditation, par exemple.
Par exemple,
aujourd'hui,
bien entendu,
hein, c'est inscrire notre corps dans un moment présent.
Regardez à quel point la question de la méditation est à la fois originale et importante aujourd'hui. Méditer, traditionnellement, c'est retournez-vous vers vous-même et essayez d'éprouver ce que votre conscience ressent. Qu'est-ce que c'est que méditer aujourd'hui ? C'est pas seulement ça, c'est ressentir le corps. C'est partir de votre souffle, par exemple. C'est partir de la façon dont vos muscles sont plus ou moins contractés. C'est une démarche, à la fois une démarche et un changement absolument fondamental.
Oui. Mais ça vient d'assez loin, finalement, parce que vous évoquez aussi ça, ce travail sur les capacités pulmonaires, par exemple.
Non, vous avez raison, ça vient d'assez loin. Moi, je crois qu'il y a une période sur laquelle j'ai retravaillé, quand j'ai écrit ce livre sur le sentiment, le sens interne et la conscience de soi, il y a une période centrale. C'est celle de des lumières. Parce que aux lumières, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe un relatif retrait de l'univers religieux. Il disparaît pas, évidemment, mais il y a un relatif retrait. S'il y a retrait, il y a réinvestissement sur la personne physique, hic et nunc, là et là, là. Et on voit, au moment des lumières, de nouvelles préoccupations, précisément, sur qu'est-ce que c'est que ce corps que l'on se représente. Le texte magnifique de Diderot, le rêve de D'Alembert, Diderot relève, dans le rêve de D'Alembert, le fait qu'il s'imagine brusquement les mains qui vont jusqu'au ciel, les jambes qui sont sur des ressorts, ça paraît complètement dérisoire. Mais que dit Diderot de plus ? Il dit, la façon dont, dans certains cas, vous avez le sentiment que votre corps disparaît, ça renvoie à votre disparition. Donc le corps est au cœur de la façon dont vous existez. Vous voyez, ça c'est totalement neuf, et c'est plus du tout l'histoire des cartésiennes que je ne méprise absolument pas, bien entendu. C'est plus je pense donc je suis, c'est je sens donc je suis.
Alors justement, avec l'aspect psychologique également, hein, ça c'est beaucoup plus récent
et qui se construit.
L'apport des neurosciences aussi, ça commence à ce moment-là. On y reviendra dans un instant. Pour justement poursuivre sur ce que vous nous disiez tout à l'heure de la prise de conscience aujourd'hui du corps, Patrice nous dit le terme d'énergie employé à tout va vient s'immiscer aujourd'hui de plus en plus dans la perception du corps et une éventuelle prise en compte en termes de thérapie, est-ce qu'on n'est pas dans une forme de charlatanisme sournois, demande-t-il ?
Alors, bon, le mot énergie, c'est un mot important. Et c'est pas un mot qui est forcément mis en rapport avec la prise de conscience. Ouais. Pourquoi c'est un mot important ? C'est une longue histoire, mais c'est une histoire importante qui naît avec la découverte de l'oxygène. Qu'est-ce que c'est que la découverte de l'oxygène ? 1717, Lavoisier dit « le corps est un brûleur ». Le corps est un brûleur. Donc, ça veut dire que ce que vous absorbez va se transformer sous forme de combustion et donner du gaz carbonique. Mais, si vous absorbez plus, vous allez pouvoir rendre plus. Vous voyez, c'est le problème du rendement. Mmh. Et du coup, l'énergie ne passe pas du tout par la prise de conscience ici. Elle passe par l'assimilation du corps à la machine à vapeur.
Ouais. Il y a une idée de la dynamique. Hein,
voilà,
aussi.
C'est l'idée de la dynamique. C'est chauffer. Ouais. Et à ce moment-là, vous allez avoir des effets mécaniques. Bon, alors aujourd'hui, bien sûr, le mot énergie continue d'exister. On le voit à travers la consommation des calories, la façon dont on organise les régimes, etc. Ça, c'est au cœur.
On va brûler, oui.
Voilà, on brûle. Mais c'est vrai que on peut réutiliser le mot énergie, mais dans un sens légèrement différent, c'est essayer de vous ressentir actif, avec du projet, avec quelque chose qui vous propulse, mais c'est plus du tout lié directement à la machine à vapeur, vous voyez. En revanche, oui, c'est ressentir vos potentialités. Ça, oui, et c'est très important aujourd'hui.
Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que vous faites souvent un parallèle dans l'histoire entre la façon dont on repense le corps et l'évolution des technologies aussi. Hein. Il y a les sciences de l'ingénieur aussi, après le Moyen-Âge, là, et qui font qu'on envisage autrement aussi la représentation du corps.
Je trouve votre question centrale, parce que ça renvoie effectivement à un des éléments fondamentaux de mon projet. Je m'explique. Nous avons dit que ce qui était important, c'était la question de la représentation. Mmh. Très bien, on se représente le corps sous une forme X ou Y. Je prends un exemple tout simple, vulgaire, la négresse à plateau a une représentation de son corps et ça a des effets sur la façon dont elle essaie de se montrer, si vous voulez. Bon, je reviens à votre question. Se représenter son corps, quelle est l'origine? Eh bien, on utilise les données que l'on a, les repères que l'on a, les dispositifs organisationnels que l'on a. Et quels sont les dispositifs les plus immédiats? Ce sont les techniques, la façon dont le monde fonctionne, ou c'est le quotidien. Là, par exemple, la manière dont on se représente les humeurs du Moyen-Âge précisément, vous voyez, où le corps est considéré comme efficace à partir des liquides qui sont en lui, le sang, etc. Bon, mais ces humeurs, elles renvoient aux pratiques quotidiennes, c'est-à-dire comment on envisage le vin, comment on envisage le lait, comment les vapeurs montent, etc. Et ça renvoie à une imaginaire du corps. Je prends un exemple très simple, ça boue à l'intérieur. Et qu'est-ce qui fait bouillir? Ben, c'est votre digestion, etc. Donc ça fait monter de la vapeur au cerveau. Et si la vapeur n'est pas suffisamment claire, ça embarrasse votre cerveau, vous devenez mélancolique. Vous voyez, là, il y a bien quelque chose qui est dans la représentation. Oui. Je finis. Mmh. Je finis sur cet exemple-là, qui, concernant le redressement, me paraît absolument fondamental. Quelle est, au Moyen-Âge, la représentation que l'on se fait du corps de l'enfant? C'est un corps submergé par le liquide. Toute l'histoire de l'individu va être celle d'un progressif dessèchement. Le corps de l'enfant est submergé par le liquide.
Vous parlez de la glaise, hein. Il y a ce terme de glaise,
précisément,
en fait, hein, pour modeler
précisément,
l'enfant.
Ouais. Ça aboutit à quoi? Ça aboutit à cette idée selon laquelle on considère que l'enfant, c'est un milieu plastique. Et du coup, le redressement, c'est mettre la main pour transformer la forme.
Ouais, et c'est la main de l'adulte.
C'est fondamental.
C'est la main de l'adulte.
C'est la main de l'adulte
qui marque
l'enfant. Deuxièmement, ça renvoie à cette image du pouvoir.
Georges Digarello, vous êtes notre invité. On se retrouve dans un instant. Des messages pour vous sur franceinter.fr. Fatoumata Diawara avec Enterini à l'instant.
La tête au carré.
Georges Vigarello, vous êtes notre invité avec Le Corps redressé, ce livre qui paraît aux éditions du Félin, qui reparaît finalement oui. 40 ans plus tard, avec ce sous-titre « Histoire d'un pouvoir pédagogique ». Je vous demandais, vous, en tant qu'ancien professeur de sport hors antenne, ce que vous faisiez encore comme activité physique aujourd'hui.
Et je vous
pour
disais,
avoir ce corps droit, toujours.
Et je vous disais de la marche.
De la marche, principalement.
Voilà. Et puis je pense aussi qu'il faut faire un tout petit peu de gym. Enfin, ça, c'est mon avis. Hein, pour tenir le bassin, un peu d'abdominaux, voilà.
Combien vous en faites des abdos tous les jours?
Quelques-uns. Vous savez, je suis pas obsédé.
Non, mais c'est bien, c'est voilà. bien. Alors, Catherine nous dit ceci. Est-ce que vous ne pensez pas que plus nous avons une connaissance fine des organes de notre corps, et mieux nous sommes armés pour lutter, justement, contre ces défaillances?
Alors, est-ce qu'on peut avoir une connaissance fine des organes? Ça, je ne le pense pas. Je pense pas que la conscience puisse aller jusqu'à percevoir, par exemple, je sais pas moi, le fonctionnement de l'estomac, même le rythme du cœur, c'est très difficile à percevoir, vous voyez. Mais c'est vrai que être à l'écoute, c'est un problème plus large. Être à l'écoute, c'est-à-dire pouvoir ressentir les petits dysfonctionnements, pouvoir ressentir les petites douleurs, pouvoir ressentir les petits handicaps. Être à l'écoute, indiscutablement, ça ne peut pas ne pas aider.
Et par contre, les muscles, on peut avoir une bonne connaissance des muscles. Bien sûr. Là, c'est plus simple presque.
On peut avoir une bonne connaissance, disons, en gros, de sa position globale, vous voyez. Ce qui facilite, évidemment, pour parler de façon un peu technique, ce qui facilite les équilibres, ce qui facilite les façons de se porter, de marcher, etc. Oui, mais la connaissance précise des organes, je dirais non. En plus, c'est intéressant comme question. C'est intéressant parce qu'on voit bien que ce qui est au cœur des préoccupations aujourd'hui, c'est précisément à l'écoute à l'égard du corps, vous voyez. Avec cette idée qu'on peut écouter jusqu'au bout, alors qu'évidemment pas.
Alors, le sous-titre du livre, Histoire d'un pouvoir pédagogique, ça c'est central évidemment, puisque vous parlez d'une pédagogie posturale. Et finalement, c'est l'histoire aussi, cet ouvrage, de cette éducation qui redresse à toutes les époques.
Oui, c'est central parce que mon idée, je reviens à ce que nous disions tout à fait au début, mon idée c'était l'idée selon laquelle la main de l'adulte vient se placer sur le corps de l'enfant, et le corps, c'est en définitive le premier objet de l'éducation. C'est ce qui se voit, c'est ce qui se sent, et on a le sentiment que en le retenant, en lui imposant des choses, on va avoir des effets qui sont des effets plus larges. Vous savez, le grand chapitre de Michel Foucault dans Surveiller et punir, ça c'était un chapitre qui m'a beaucoup qui m'a tenu beaucoup, qui s'appelle les corps dociles. Et il dit, agir sur les corps, c'est transformer les âmes.
Ouais.
C'était ça le cœur de son chapitre.
Et alors justement, ça commence dès le Moyen-Âge. Parce que vous dites finalement, ce qui caractérise cette période, c'est de contenir le débordement et de faire taire la gesticulation.
Oui, parce que évidemment, on peut très bien penser que la Grèce, Rome s'intéressent à cette question. Mais ce qui est clair au Moyen-Âge, en particulier, c'est le travail fait au sein des cours, pour ordonner les cours régionales, vous voyez. Travail sur les pages, par exemple. Avec cette idée sur laquelle il faut une tenue. Il faut une tenue à table, il faut une tenue dans les mouvements. Et je reviens à l'image sur laquelle le corps est une glaise. Si vous maintenez trop longtemps une tenue courbée, votre corps va se figer. Vous voyez, il y a cette idée qui n'est plus la nôtre, bien sûr, mais qui avait évidemment de l'importance dans cette période très éloignée.
Ouais. Alors, ce qui surprend aussi, pour le coup, c'est une découverte, parce qu'il y a tout un travail d'éducation sur les enfants, dès le Moyen-Âge, des livres de civilité aussi sur la façon dont on peut mettre son corps en avant. Et il y a déjà de l'hygiénisme aussi, au fond, à cette
période-là. Dans un certain sens, oui, mais le livre de civilité qui est effectivement important, c'est un livre qui, au fond, communique la manière de se tenir et plus largement la façon d'observer une étiquette. Moi, je pense aux cours. Vous voyez, les fameuses cours régionales, il y a une étiquette qui est observée. Il faut, en quelque sorte, avoir une certaine attitude. On ne peut pas se comporter n'importe comment. Il faut aussi, je reviens à ce que vous disiez, c'est très important, il faut retenir le débordement.
Ouais.
Et retenir le débordement, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de figer le sujet et de lui imposer une position.
Ouais. Donc au niveau, pour la noblesse en tout cas, c'est très important. Il y a la culture vestimentaire aussi qui vient appuyer tout ça, parce que ça ne va pas sans, évidemment, la tenue, elle aussi, vestimentaire, pour corriger la raideur, enfin pour améliorer la raideur. Bah,
pour favoriser la rectitude. Mmh. Alors cette tenue, si on prend le cas du Moyen-Âge, elle ne dispose pas encore de ce qui sera fondamental au XVIe, au XVIIe, qui est le corset. Oui. Mais elle essaie d'entourer au maximum le corps de l'enfant avec un excès presque de tissu. Et surtout, il y a une pratique qui est évidemment complètement oubliée aujourd'hui. Quelle est-elle? Ben, c'est le fait d'envelopper l'enfant dans ce qu'on appelait un maillot. Oui, alors, je m'explique. D'ailleurs, il y a d'abord cette fameuse séquence de malaxage. Ensuite, les textes le disent, on prend des bandes relativement humides, on met parfois des chutes d'huîtres sur la peau pour éviter qu'il y ait trop de débordements de transpiration. Mmh. Et puis on en serre le corps en resserrant les bras et en entourant complètement le corps dans le noyau. On le voit parfois dans des peintures encore aujourd'hui.
Oui, c'est ça.
Et de façon à ce que la position soit maintenue et les bandes se desséchant accentuent encore davantage l'attente de la rectitude.
Oui. Alors, il y a les maillots, il y a les corps baleines aussi, c'est ça?
Alors, le corps à baleine paraît plus tard.
Corps à baleine, voilà. Qu'est-ce
le
que
corps
c'est
à baleine, ça apparaît au fin 16e, 17e. C'est cette fois un corset. Et ça renvoie à un univers de représentation sur lesquels nous reviendrons. C'est donc un corset fait de tissus extrêmement raides,
ouais,
avec des passages dans lesquels on glisse des fanons de baleines qui, au fond, deviennent les os supplétifs, si je puis dire, vous voyez, et qui resserrent évidemment le corps très fort avec de nouveaux métiers, dont celui de fabricant de corps à baleine,
c'est
pour
ça,
femmes et pour enfants.
À quel moment on va commencer à se révolter justement contre ces pratiques?
Le grand moment, c'est je reviens aux Lumières. Mmh. C'est à partir de là que le sentiment de la contrainte devient un sentiment qui n'est plus supportable, vous voyez, qui va créer... C'est le grand texte de Rousseau, mais Rousseau n'est pas le seul. Dans l'Émile, il y a un passage magnifique qui critique le corset, vous voyez, qui critique le maillot, en disant, mais laissez les enfants bouger. Alors cette idée de Lumières, elle se double de quelque chose qui est encore plus profond et qui consiste à penser que l'initiative doit venir d'enfant. C'est le mouvement de l'intérieur qui va finalement donner de la forme au corps.
Oui.
Vous voyez la révolution fabuleuse et qui passe par de la représentation. C'est plus quelque chose qui s'impose de l'extérieur et qui vient sculpter en quelque sorte la forme. C'est la forme qui s'obtient à partir d'un travail dispersé sans doute pendant longtemps sur le muscle.
Oui.
Et donc tout vient du dedans, disent les auteurs. C'est une révolution majeure parce que continuons de raisonner sur ce problème-là. Tout vient du dedans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez plus d'autonomie. Ça veut dire qu'au bout du compte, qu'est-ce qui se passe? Mais le citoyen. C'est le citoyen qui va exister.
C'est la gymnastique qui va permettre ça?
C'est pas la gymnastique,
l'éducation physique ou...
Je pense pas qu'on puisse dire les choses de façon aussi tranchée. Mais c'est évidemment une visée d'éducation qui fait confiance dans une certaine mesure. Confiance limitée, ne l'oublions jamais. Rousseau ne fait pas faire n'importe quoi à Émile. Mais il y a quelque chose qui est d'ordre d'une confiance et qui est centrale. Parce que c'est un déplacement majeur entre ce qui vient de l'extérieur et ce qui vient de l'intérieur.
Alors justement, au XVIIe, tiens, des exemples, l'escrime, l'équitation, qui sont des terrains pour la rectitude. Hein. C'est
alors là,
qu'on peut apprendre, justement.
Hein. Nous revenons à la période qui est celle de la contrainte visible et obligée.
Ouais.
Et c'est une période importante parce que nous parlions tout à l'heure de la technique. Quelles sont les techniques qui dominent au XVIIe siècle? Ce sont des techniques mécaniques. L'invention de l'horloge, enfin... L'amélioration de l'horloge, le compas qui se retrouve partout, le travail sur les calculs mécaniques, les coûts, les durées, les poids, la poulie, etc. Et ça donne quoi? Mais ça donne précisément le corset. C'est-à-dire ça donne quelque chose qui vient s'installer mécaniquement sur les articulations pour contraindre... Mais tout simplement, leurs angles, pour contraindre leur rectitude. Vous voyez, il y a une image là qui est très importante et qui n'est pas du tout étrangère à la technique, bien au contraire.
Et parmi les activités, justement, favorisant la rectitude, la danse, évidemment, toujours au 17e.
Mais c'est une danse très rigide.
Le bourgeois gentilhomme, 1670.
Est-ce que les gens de qualité apprennent aussi la musique?
Oui, monsieur.
Je l'apprendrai donc.
La musique et la danse, c'est là tout ce qu'il faut.
Il n'y a rien qui soit si utile dans un état que la musique.
Il n'y a rien qui soit si nécessaire aux hommes que la danse.
Sans la musique, un état ne peut subsister.
Sans la danse, un homme ne saurait rien faire. Lorsqu'un homme a commis un manquement dans sa conduite, soit aux affaires de sa famille, ou au gouvernement d'un état, ou au commandement d'une armée, ne dit-on pas toujours « un tel a fait un mauvais pas dans une telle affaire » ?
Ah oui ? On dit cela?
Et faire un mauvais pas, peut-il procéder d'autre chose que de ne savoir pas danser?
Cela est vrai!
C'est pour vous faire voir l'excellence et l'utilité de la danse.
Voilà, la danse qui peut servir à cette époque, en tout cas, à une position corporelle dominante.
Oui, c'est ça, l'apprentissage d'une position.
Ouais.
Mais quand on regarde avec attention les textes, quand on regarde aussi avec attention les images, on voit que c'est pas du tout la danse aujourd'hui. C'est pas du tout
quelque chose
qui est le funambulisme, vous voyez.
Ouais.
Au contraire, c'est extrêmement rigide et c'est apprendre des positions qui sont des positions fixes. Parce que l'idée, c'est bien de fixer la rectitude. Ça peut aller jusqu'à la révérence, bien entendu, mais c'est toujours éminemment contrôlé.
Ouais.
Et ça me paraît très important.
On
voit bien qu'à l'arrière-plan, c'est quand même la représentation du corset qui reste présente. Oui.
On a ces images aussi dedans, sur les musiques de Lully, avec des bâtons perchés très haut, hein, pour garder justement la droiture. Sylvaine nous dit « Je suis enseignante dans le secondaire et je n'arrive pas à comprendre comment on peut à ce point ignorer le corps dans notre institution. Comment imposer à des enfants de rester jusqu'à 6 heures par jour assis à écouter en s'aveuglant sur l'atrophie qu'on impose à leur cerveau et en les maintenant ainsi immobiles ?» Un moment dans le livre, vous parlez du mobilier scolaire justement. Absolument, qui a changé au 19e, je crois,
tout à fait,
pour s'adapter justement à ces contraintes corporelles.
Hein. Oui, mais qui s'est structuré et qui a essayé aussi de faire exister des dimensions différentes pour s'adapter à des corps eux-mêmes différents. Vous voyez, il y a quand même un travail qui a été fait. Mais c'est vrai qu'on peut toujours contester aujourd'hui la façon dont les corps restent peut-être trop immobile dans les classes. Mais moi, je me félicite aussi, ne l'oublions jamais, d'une présence plus grande des activités, une présence du sport, une présence des pratiques. Faut quand même pas oublier.
Ouais. L'expression corporelle, justement, ce terme.
Très important, l'expression corporelle.
Il arrive quand, Georges Guirello?
Deuxième moitié du 20e, et je dirais même les années 70-80. Très important. Pourquoi? Parce que l'expression corporelle, c'est bien l'intérêt qui porte sur la façon dont vous essayez de faire passer à l'extérieur quelque chose qui est ressenti. Et en général, le ressenti a plutôt une dimension affective dans le cas, vous voyez. Donc c'est très important, c'est pas seulement un ressenti intellectuel, c'est un ressenti qui passe par la chair.
Allez, on se retrouve dans un instant pour poursuivre cette discussion autour du corps redressé, le temps de faire un tour à Montparnasse avec Miossec.
Tu m'as planté là, sur le quai, sans même te retourner, sans même te demander si j'avais de quoi pour rentrer. Comme si rien n'avait compté, comme si t'avais tout oublié, comme si rien ne s'était passé, ma sale petite garce. T'es coulé dans la foule comme si tu voulais t'y noyer, comme nous autrefois dans la houle quand le vent nous protégeait. Je t'aime, je t'aime quand même, même si tu m'as laissé sur le bord de la Seine. Je t'aime, je t'aime quand même, même si tu m'as laissé sur le bord de la Seine. T'avais tellement voulu y trouver ta place dans ces nuits d'euphorie et ce petit matin dégueulasse. Alors je t'ai dit adieu, même pas au revoir, de la honte, plein les yeux d'avoir perdu tout espoir. Je t'aime, je t'aime quand même, même si tu m'as laissé sur le bord de la Seine. Je t'aime, je t'aime quand même, même si tu m'as laissé sur le bord de la Seine. Je t'aime, je t'aime quand même, même si tu m'as laissé sur le bord de la Seine.
À Montparnasse, la voix de Miossec.
La tête au carré sur France Inter.
La rentrée des classes, que de tracas pour les parents. Père et mère ont voulu que la rentrée commence bien, matériellement, moralement. Mais parfois, ils ont négligé de considérer les liens qu'il y a entre la vie scolaire d'un enfant et sa santé.
Nous allons demander conseil, si vous le voulez bien, à deux spécialistes. L'un chirurgien orthopédiste, l'autre spécialiste de la rééducation.
Nous avons affaire à une scoliose juvénile rapidement évolutive et il faut instituer un traitement excessivement sérieux d'emblée. Il faut naturellement, pendant les trois premiers mois du traitement, interrompre totalement sa scolarité car cet enfant doit rester couché de 15 à 18 heures par jour.
Les traitements, dans un cas sévère comme celui-là, sont au nombre de trois. Il faut tout d'abord corseter cet enfant, faire un corset en cuir moulé en position appropriée. Il faut ensuite que la nuit, elle couche dans un petit lit plâtré qui aura été moulé par les soins de notre centre spécialisé en position de correction. Et enfin et surtout, il faut que cet enfant soit amené très régulièrement au cours de gymnastique corrective qui est la base du traitement, la partie la plus importante sans doute.
Voilà, Georges Vigarello, comment en 1959 on traitait la scoliose avec 15 à 18 heures par jour dans les cas les plus sévères, hein, évidemment, d'immobilisation. Évidemment, c'est terminé ça.
C'est quand même un magnifique programme, je n'en reviens pas moi-même.
Oui, oui.
Alors, je crois que c'est une longue histoire quand même. Il faut revenir très en arrière, ne m'en veuillez pas. Il faut revenir à nouveau aux Lumières. Il y a un texte majeur qui est celui d'André de Beauregard qui s'appelle L'orthopédie. C'est le premier texte portant sur l'orthopédie. Mmh. Et André de Beauregard est un des premiers à dire, pour rectifier, il faut quand même agir, vous voyez, il faut faire intervenir les muscles. Mais c'est aussi un des premiers à faire des différences. Il y a plus ou moins des cas graves et d'autres qui sont plus discrets. Bon, et je crois qu'il y a une invention là. Il y a une invention qui consiste à regarder ce qu'est la déformation discrète, vous voyez, qui n'était pas regardée jusque-là. Mmh. Bien. Passons les siècles, il y a évidemment toujours un intérêt à l'égard de l'enfant. Je pense que la Deuxième Guerre mondiale a joué un rôle très important dans l'idée qu'il y a eu une dénutrition, qu'il y a eu un affaiblissement des morphologies. Et donc on voit bien, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, tout ensemble de préoccupations sur la gymnastique corrective, les groupes faits dans les classes. Ouais. On fait des groupes de force différents dans les lycées ou dans les collèges. Bon, donc il y a là vraiment une préoccupation. Mais je ne vous cache pas que ce que j'entends dire en 1959 chez cette personne demandant à ce que le corset soit porté 18 heures par jour, je vous cache pas que ça m'étonne. Évidemment, si le cas est gravissime, bien sûr, mais il faut là prendre en compte des cas qui sont relativement différents les uns par rapport aux autres. C'est absolument fondamental, sinon on ne comprend pas. Et en revanche, le dernier intervenant disant il faut faire de la gymnastique corrective, c'était effectivement la pratique qui était privilégiée. Que faut-il ajouter à tout cela ? Eh bien que nous avons changé d'époque. C'est-à-dire que finalement les corps sont quand même devenus plus actifs, la gymnastique s'est diffusée, le sport est présent, donc les corps sont plus toniques. Et la préoccupation, figurez-vous, c'est plus vraiment de savoir s'il y a scoliose ou pas, la préoccupation devient, et heureusement, si les enfants ont un équilibre psychologique ou pas. Et donc la grande différence est là. L'intérêt à l'égard de l'enfant devient un intérêt qui favorise la psychologie par rapport à un intérêt précédent qui favorisait la physiologie.
Oui, c'est quoi ? C'est justement la psychologie neuroscientifique au fond qui caractérise aussi un peu cette période récente.
C'est assez complexe. Moi, je crois qu'il y a plusieurs écoles, hein, mais en particulier qui est très présente, c'est la psychologie clinique, c'est-à-dire s'intéresser à la façon dont il peut y avoir trouble ou pas trouble, difficulté ou pas difficulté. C'est la grande préoccupation aujourd'hui, envoyer l'enfant chez le psychologue. Peut-être le fait-on trop, bien sûr. Mais vous voyez, c'est plus envoyer l'enfant, c'est celui qui va rectifier sa colonne vertébrale.
Myriam nous dit, aujourd'hui, on redresse surtout la dentition des enfants, alors que le thème de la scoliose, qui était centrale quand j'étais petite et adolescente, a presque disparu.
Bien sûr.
Comment ce phénomène peut s'expliquer ?
Alors, comment l'expliquer ? C'est évidemment extrêmement difficile d'avoir une réponse imparable. Mais à mon sens, on ne peut pas ne pas l'expliquer par le fait que les enfants sont devenus plus toniques, qu'ils sont devenus plus costaud, plus robuste, c'est indiscutable, meilleure nourriture, plus d'activité, et ça se voit au niveau des corps eux-mêmes, vous voyez.
Pourtant, il y a des périodes où on s'est inquiété justement de la perte de tonicité des corps, hein, des hommes comme chez les femmes d'ailleurs. Hein.
Alors, il y a une grande crainte aujourd'hui parce que l'idée c'est que l'activité physique s'est quand même perdue. Personnellement, je ne vous le cache pas que je suis assez réticent à l'égard de cette idée. Parce que je trouve que les pratiques sportives sont très présentes. Les pratiques associatives, elles sont très présentes, vous voyez, ça on l'oublie.
Anne nous dit, ce qui est intéressant, c'est que le livre de Thérèse Bertera, Le corps a ses raisons, a été publié il y a 40 ans, lui aussi, en 76. Il a été un best-seller à l'époque. Ce livre est le fondement de la méthode de l'anti-gymnastique, qui justement propose de retrouver son corps, ses sensations, de la découvrir pour mieux l'habiter. Évidemment, vous connaissez cet ouvrage.
Bien sûr, oui, c'est un livre qui a eu un grand succès dans les années 70. Ouais. Le corps a ses raisons. Et évidemment, il y a eu deux ou trois idées fondamentales. La première, vous l'avez dit, c'est l'anti-gymnastique. C'est-à-dire, ne faisons plus une gymnastique qui vient s'imposer de l'extérieur sur l'enfant.
Ouais.
Travaillons sur la prise de conscience. Et donc, la deuxième idée, c'est travaillons sur la prise de conscience.
On est après mai 68, quand même. Tout ce climat.
Oui,
là,
tout ce climat qui renvoie sur le désir, sur le fait.
Et qui joue sur le corps aussi.
Qui joue sur le corps, sur le fait de s'épanouir, de se ressentir, de travailler sur effectivement ce qui vient du dedans, vous voyez. Et la troisième idée, que personnellement je trouve un petit peu trop tranché. C'est à partir du moment où vous travaillez sur votre corps, vous allez retrouver vos traumas, vous allez retrouver les choses qui vous ont atteintes, qui sont venues se crisper à l'intérieur de votre propre organisme, et en vous détendant et en travaillant sur elles, vous allez finalement quoi ? Ben, retrouver votre personnalité. C'est un peu rapide.
Gilles nous dit, le fait de relier l'homme au Moyen-Âge européen, est-ce que ça ne traduit pas un Occident tocentrisme problématique, Georges Vigarello ?
Vous savez, c'est la question à laquelle je suis en permanence confronté. Bon, moi, je considère que c'est très important de travailler sur l'ensemble des cultures, bien sûr, et que nous sommes dans des situations aujourd'hui qui nécessitent le croisement des repères. Je trouve que les historiens, de ce point de vue, ont progressé, puisqu'ils travaillent sur les sensibilités venues de tous horizons. La vision des vaincus, c'était le grand livre de Vatchel, qui d'ailleurs l'avait propulsé au Collège de France très légitimement. Bien sûr, indiscutable, mais après tout, pourquoi pas non plus aussi se questionner sur notre propre culture. Est-ce que c'est injurieux de se questionner sur la façon dont notre culture a évolué ? Donc, tout est possible.
Corinne sur Facebook, je suis professeur de technique FM Alexander, qui permet de maintenir sur une posture équilibrée, qui soulage les douleurs chroniques du dos, soutient la liberté de la respiration. La verticalité est obtenue en utilisant des images mentales, des directions pour activer la musculature profonde.
Ben, nous revenons à ce que nous disions.
C'est aujourd'hui, méthode psychocorporelle.
Voilà, c'est ça. Nous revenons à ce que nous disions. Aujourd'hui, il y a vraiment un travail que, personnellement, je trouve très important sur la sensibilité à l'égard du corps, la façon dont on se le représente, etc. Mais le sport fonctionne comme ça aussi aujourd'hui. Travailler sur les images mentales, essayer de voir comment ça fonctionne à l'intérieur de vous, prévoir les sensations qui vont surgir, etc. Ouais, c'est énorme comme déplacement.
Quelle question est-ce que vous vous posez aujourd'hui finalement, Georges Vigarello, aujourd'hui dans cette société 2018, là précisément autour de ce redressement des corps, qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Alors, moi je pense que l'idée du redressement au sens le plus strict, c'est plus une idée fondamentale. Ce qui est beaucoup plus important, c'est comment vous vous éprouvez. Et le problème, c'est évidemment comment faire le rapport, c'est très compliqué, mais c'est une tâche qu'il faut assumer. C'est comment vous confrontez vos propres difficultés psychologiques avec la façon dont vous éprouvez votre corps. Ça me paraît assez fondamental. C'est un projet immense.
Ouais. Donc c'est indissociable aujourd'hui vraiment ces deux aspects ?
Ah, je pense que la façon dont vous éprouvez votre corps est quand même au cœur de la manière dont s'exprime votre propre identité. Ça, je crois que c'est vraiment très important. Et c'est le problème d'identité. Votre identité, c'est quand même la manière dont vous éprouvez vous-même. Et vous-même, c'est d'abord le corps.
Est-ce qu'il y a des activités qui sont plus propices à cela ou pas ?
Je pense que toutes les activités qui favorisent la prise de conscience, à partir du moment où elles sont contrôlées, où elles ne dérivent pas n'importe où, sont des activités intéressantes, oui, bien sûr.
Merci beaucoup, Georges Vigarello. Ce livre, donc, reparaît 40 ans plus tard. Ça s'appelle Le corps redressé, avec ce sous-titre Histoire d'un pouvoir pédagogique. Et il est publié aux éditions du Félin dans la collection Histoire et Société. Merci d'être venu nous en parler cet après-midi. Merci à Juliette Delperroux et Mathias Alléon, qui étaient aujourd'hui à la technique.